France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. C'est une décision qui pourrait concerner des dizaines de milliers d'Européens et qui pourrait crisper aussi certains gouvernements. La justice européenne oblige les 27 à reconnaître les mariages entre personnes du même sexe, même s'ils ont été conclus dans un autre État membre. Justice qui avait été saisie par un couple de Polonais mariés à l'étranger, car la Pologne fait partie des pays européens qui ne reconnaissent pas le mariage homosexuel. Toutes les précisions dans un instant. Objectif pesé dans les négociations de paix, mais aussi préparer l'après. Les alliés de l'Ukraine se réunissent cet après-midi. Il ne faut pas se montrer faible face à la menace de la Russie, dit Emmanuel Macron, alors que la nuit a encore été meurtrière. Comment lutter contre les violences faites aux femmes? En cette journée internationale, on ira en Irlande du Nord, où les futurs infirmiers sont désormais mieux formés à reconnaître les signes de violence conjugale. Et puis à 13h30, avec nos invités, on se penchera sur la solitude et l'impuissance des proches de victimes. J'attends d'ailleurs vos questions. 0145 24 7000, et puis l'appli Radio France. 25 décembre, nous sommes à un mois tout juste de Noël et on va se pencher sur le menu des fêtes. Bonjour Louise Buyens.
Bonjour.
Est-ce que les prix risquent d'augmenter sur la table du réveillon?
Eh bien globalement, c'est une bonne nouvelle. Les prix sont plutôt stables par rapport à l'an dernier. Et puis côté consommation, on entendra que les professionnels espèrent même un rebond.
Bon, bah, tous les détails avec vous, Louise, tout à l'heure. On ira aussi assister à un atelier de prévention sur les risques du gaz hilarant. C'était ce matin dans un collège de la banlieue lyonnaise. On vous emmène aussi découvrir les nouvelles rames qui vont progressivement circuler sur les lignes intercités et qui seront beaucoup plus confortables. Vous le verrez que les bons vieux corail. Dans la deuxième demi-heure, on ira visiter la plus grande entreprise mondiale de fabrication de clarinettes. C'est en région parisienne et écoutez, c'est tout un art.
Là, je suis sur une clarinette en ut. C'est la tonalité de l'instrument qui sortira en ut, qui est une note. On peut en faire beaucoup.
Notre feuilleton à suivre en musique. Et puis Stéphane Escher, toujours avec nous dans le 13-14 pour partager ses coups de cœur. Aujourd'hui, il revisite Bob Dylan. Voilà un joli moment qui nous emmènera jusqu'à 14h. Voilà pour le programme. Bienvenue à tous.
France Inter.
Aller se marier loin de chez soi car la loi ne le permet pas dans son pays, voilà un choix que font encore chaque année des dizaines de milliers d'Européens. Car au sein de l'Union, seuls 16 pays sur 27 reconnaissent le mariage entre personnes du même sexe, d'où l'importance de cette décision prise ce matin par la Cour de justice de l'UE. Bonjour Anya Vogel.
Bonjour.
Tout pays de l'Union est tenu de reconnaître le mariage de deux citoyens de même sexe conclu dans un autre État membre. L'instance avait été saisie par deux Polonais, deux hommes qui se sont mariés en Allemagne puisque le mariage homosexuel n'est pas autorisé en Pologne et qui ne parvenaient pas à faire reconnaître leur union dans leur pays.
En 2018, ces deux citoyens polonais qui séjournent en Allemagne et dont l'un possède aussi la nationalité allemande se marient à Berlin. Par la suite, ils veulent se rendre en Pologne et y vivre en tant que couple mariés, mais lorsqu'ils demandent la transcription de leur acte de mariage dans le registre d'état civil polonais, cette demande est refusée au motif que le droit polonais n'autorise pas le mariage entre les personnes de même sexe et que la transcription violerait ses principes fondamentaux. Le couple va devant les tribunaux et c'est un juge polonais qui saisit la Cour de justice de l'Union dont l'arrêt est très clair. Ce refus viole la liberté de circulation et le droit à la vie familiale dont jouissent tous les citoyens de l'Union. La Pologne a donc obligation de transcrire et de reconnaître cet acte de mariage.
Comme les États membres sont tenus, Anya, de se conformer aux droits de l'Union, ça va sans doute poser des problèmes dans d'autres pays européens.
Clairement, dans tous les pays qui ne reconnaissent pas le mariage homosexuel, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et donc la Pologne, qui avaient déjà été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-reconnaissance légale des couples de même sexe. Mais attention, cet arrêt de la Cour de Luxembourg n'oblige pas les États à reconnaître le mariage homosexuel. Il oblige simplement à reconnaître un statut marital légalement acquis dans un autre État. Cela a été le cas pour la Roumanie ou encore pour la Bulgarie, qui refusait de délivrer un document d'identité à un enfant adopté légalement par deux femmes en Espagne, dont l'une était de nationalité bulgare. Pour la Cour, il s'agit de permettre aux citoyens de l'Union de construire une vie familiale dans un autre État membre d'accueil et de pouvoir la continuer au retour dans leur pays d'origine.
Merci pour toutes ces précisions, Anya Vogel, correspondante à Strasbourg pour France Inter. L'Europe qui tente par ailleurs de faire entendre son point de vue dans les négociations sur l'Ukraine. Des discussions ont eu lieu ces derniers jours en Suisse entre les Ukrainiens ukrainiens et les américains, Volodymyr Zelensky souhaite maintenant se rendre à Washington au plus vite pour finaliser les étapes restantes directement avec Donald Trump, alors que les frappes se poursuivent massives sur l'Ukraine. 6 personnes ont été tuées la nuit dernière dans la capitale. Et cet après-midi, les alliés de l'Ukraine vont donc à nouveau se réunir en visioconférence. C'est la deuxième réunion en 2 mois de cette coalition des volontaires. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Alors quels vont être les sujets qui vont être discutés en priorité au cours de cette réunion?
Eh bien, la trentaine de pays qui forment cette coalition vont tenter d'infléchir les exigences russes, entre autres sur la question des effectifs de l'armée ukrainienne. Moscou a accepté de relever le seuil de 85 000 à 600 000 hommes, mais pour les Européens, Emmanuel Macron en tête, c'est encore trop peu. Pour se défendre, Kiev doit pouvoir compter sur au moins 800 000 soldats, comme aujourd'hui.
La première chose qui protégera l'Ukraine, c'est sa propre armée. Et donc la première des garanties de sécurité, pour les Ukrainiens et pour nous, c'est cette armée robuste. Là, il ne faut pas lui donner de limite. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On pilote sa formation, son équipement, sa capacité à se déployer sur les mois et les années qui viennent.
La question est d'autant plus sensible que dans la première version du plan de paix, ni les Russes ni les Américains ne voulaient de troupes de l'OTAN au sol. La présence de forces occidentales sera malgré tout nécessaire pour garantir la paix, dit le chef de l'État.
Il y a des soldats britanniques, français, turcs qui, le jour où la paix est signée, donc pas dans un contexte de guerre, sont là pour procéder à des entraînements, à des sécurisations. Mais je pense qu'il ne faut pas paniquer les Français, parce que je vois beaucoup de gens qui veulent faire peur, qui voudraient dire qu'on va tout de suite envoyer des troupes, c'est faux.
Les Européens devront en tout cas se montrer suffisamment fermes pour rassurer l'Ukraine, sans braquer les États-Unis, dont l'appui opérationnel reste indispensable.
Merci Isabelle Labéry de la rédaction internationale. La Russie, de son côté, rejette toutes les propositions européennes qui ne sont pas constructives selon le Kremlin, tandis que des médias américains et britanniques assurent que des discussions secrètes se tiennent en ce moment à Abu Dhabi, entre des représentants russes et des représentants américains. Et c'est dans ce contexte de guerre en Ukraine et d'incertitude géopolitique, Emmanuel Macron s'apprête à annoncer la création d'un nouveau service militaire sur la base du volontariat. Le chef de l'État le présentera après-demain lors d'une visite en Isère à la brigade d'infanterie de montagne. Nous devons renforcer le pacte armée-nation, dit Emmanuel Macron. Faciliter le relogement des femmes victimes de violences conjugales, voilà l'objectif de la circulaire adressée par le gouvernement aujourd'hui aux préfets. Il leur est demandé d'élaborer un protocole pour héberger les femmes et leurs enfants victimes de violences conjugales ou intrafamiliales lorsqu'un éloignement est nécessaire pour sortir durablement de ces violences. Circulaires à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais les initiatives d'ailleurs ne sont pas réservées à la France. D'autres pays tentent aussi d'agir pour enrayer les féminicides, comme au Royaume-Uni où les violences sont en augmentation et où une université située en Irlande du Nord a décidé d'apprendre aux futurs infirmiers à repérer les signes avant-coureurs de violences conjugales. Gaëlle Joly.
Il y a quelques jours à peine, Louise a reçu sa première session de formation contre les violences conjugales, une expérience salutaire pour cette apprentie infirmière à l'université Queen's de Belfast.
On apprend que ce n'est pas à nous de décider si la personne doit parler ou non de ce qui lui arrive. Mais nous, on doit être capable d'engager le dialogue avec des mots-clés comme « Vous allez bien ? Vous avez envie de rentrer chez vous ce soir ?» Et je suis fière que mon université s'engage là-dedans. Moi, je me sens parfois désemparée et pas assez formée.
La formation dispensée chaque année doit permettre de former plus de 600 étudiants infirmiers par an. Selon la présidente de l'association Women's Head en Irlande du Nord, Sarah Mason, qui participe au programme. La portée de cette initiative est considérable. On parle de 600 infirmières qui étudient à l'université. Et comme une infirmière peut être en contact avec 60 patients par semaine et par hôpital, vous pouvez imaginer l'ampleur de la portée de ce projet. Selon un rapport publié l'an dernier, près de 2 millions de femmes sont victimes de violences chaque année au Royaume-Uni. Un chiffre largement en dessous de la réalité, estime la police britannique. À Londres, Gaëlle Joly, France Inter.
Et on reviendra sur cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sera avec nos invités dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Ils seront interrogés sur le fonctionnement de leurs médias, sur la neutralité également. Plusieurs dirigeants et journalistes emblématiques de Radio France et de France Télévisions vont être entendus ces prochaines semaines par les parlementaires. C'est le groupe UDR d'Éric Ciotti qui a réclamé la création de cette commission d'enquête après la publication d'une vidéo montrant les journalistes Thomas Legrand et Patrick Cohen en train de discuter avec des responsables socialistes. Les auditions commenceront cet après-midi à l'Assemblée nationale avec le président de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel. Il y sera notamment question de financement, question centrale pour tous les médias publics d'ailleurs. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
En France, depuis la disparition de la redevance, c'est une fraction de la TVA qui est attribuée chaque année par le Parlement au groupe audiovisuel public. Et comment ça se passe alors chez nos voisins? Comment sont-ils financés?
Premièrement, par la redevance. C'est encore le cas chez 10 de nos voisins. La Pologne, l'Italie, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Outre-Rhin, tous les foyers acquittent une contribution universelle de 210 euros par an. Elle finance un budget de 10 milliards d'euros, presque trois fois plus élevé qu'en France. Deuxième modèle, une taxe directement affectée aux médias publics. C'est le cas en Suède ou en Finlande. Une taxe calculée en fonction des revenus, les plus modestes ne la paient pas. Enfin, la moitié des pays européens consacrent une part de leur budget à l'audiovisuel public. C'est le cas en France depuis trois ans, en Espagne et aux Pays-Bas, des recettes complétées sous certaines limites par la publicité.
Et on entend beaucoup dire, Delphine, que ces médias publics coûteraient trop cher en Suisse, en Belgique ou encore en France.
Les budgets des médias publics stagnent, voire diminuent, à en croire un rapport de l'Union européenne de radio-télévision. Ils n'ont augmenté que de 1% environ chaque année depuis 10 ans, malgré une forte inflation et alors qu'ils font face à de gros besoins d'investissement dans le numérique. Depuis le mois d'août, un règlement européen sur la liberté des médias garantit que les fonds publics qui leur sont destinés devront être suffisants, stable et prévisible pour les protéger des risques d'ingérence politique.
Les précisions de Delphine Simon. Les questions budgétaires encore et toujours au cœur des discussions au Sénat, avec sans doute en fin d'après-midi à l'agenda des sénateurs la suspension de la réforme des retraites adoptée par les députés. Et les sénateurs majoritairement à droite décideront certainement de revenir sur cette mesure. Les sénateurs qui sont appelés par ailleurs à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité de l'action publique, c'est la Cour des comptes qui avait lancé cet appel aux élus, aux administrations, aux ministères. Alors, est-ce qu'il a été suivi d'effet? On se pose la question aujourd'hui à l'occasion du troisième anniversaire du lancement de ChatGPT, un outil qui s'est largement invité dans le quotidien des Français, même si Emmanuel Macron, lui, plaidait plutôt pour la version française, Mistral. Alors, son message a-t-il été entendu? Stéphane Jourdain a attendu son micro responsable politique, à commencer justement par le président de la Cour des comptes.
Pierre Moscovici utilise bien l'intelligence artificielle.
Je l'utilise tous les jours.
Mais il plébiscite ChatGPT.
J'en ai un usage assez basique sur ChatGPT.
Et vous n'êtes pas sur Mistral?
Je ne suis pas sur Mistral. Mais je vais y remédier tout de suite.
Pour passer sous bannière tricolore, il pourra prendre conseil auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
J'utilise le chat de Mistral systématiquement et quasiment une fois par jour.
Ou de son collègue de la fonction publique, David Amiel.
Bah, j'utilise Mistral, le chat. Ah bah oui. Ah bah je m'en fais un devoir. On essaye précisément de défendre l'IA souveraine. Ce serait quand même bizarre que ça commence pas par nous, donc bien sûr.
Mais la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ne lui sera d'aucune aide.
Non, je dois vous l'avouer, non, parce que...
Parce que, en gros, pour elle, ça peut être dangereux. Même réticence.
Et non.
Chez le sénateur écologiste Yannick Jadot.
Pas du tout. Zéro nada. J'ai essayé une fois, j'ai échoué lamentablement à installer l'appli.
Quant à Stéphane Ravier, sénateur de Marseille proche du RN, il n'a jamais entendu parler de Mistral.
Non, je ne m'en sers pas du tout, pas encore.
Ni Mistral, ni ChatGPT.
Eh bien, je ne savais même pas que ça s'appelait Mistral, vous voyez, pourtant ça aurait pu m'attirer en tant que Provençal.
Bref, selon notre micro-sondage, un politique sur deux utilise l'IA, comme le reste des Français.
Voilà, les politiques mitigées, donc, au micro de Stéphane Jourdain. Une ligne à très haute tension, remise en question à cause des oiseaux migrateurs. On vous racontait hier matin sur France Inter cette polémique en Camargue, où la direction régionale de l'environnement estime dans une note que le projet du gestionnaire d'électricité RTE pour décarboner le port de Fos-sur-Mer risque de menacer plusieurs espèces d'oiseaux protégés. La commission du débat public doit remettre ses conclusions d'ici la moitié de la mi-décembre. Et en attendant, bonjour Célia Kiré.
Bonjour Céline.
Vous avez pu joindre les responsables de RTE, justement. Est-ce que cette note est de nature à les inquiéter?
Non, pas pour le moment. Ils maintiennent leur projet de ligne à très haute tension entre Fos-sur-Mer et Jonquière-Saint-Vincent avec 180 pylônes de plus de 60 mètres de haut. Dans sa note, l'Adréal les a avertis. Ce projet ne réunit pas les conditions légales nécessaires, mais le responsable du projet, Gilles Audon, délégué de RTE en Méditerranée, estime que des balises sur les lignes seront suffisantes pour éloigner les oiseaux.
Ces dispositifs existent déjà, ont déjà fait leurs preuves, et nous allons aussi les améliorer avec des dispositifs diurnes et nocturnes. Il faudra que les oiseaux puissent la nuit comme le jour, voir les lignes pour ne pas les percuter.
Sauf que la DREAL estime que ces balises ne sont pas efficaces. La solution serait d'enterrer une partie de la ligne, mais elle a été écartée.
Aujourd'hui, elle ne répond pas au cahier des charges qui a été fixé par l'État en termes de décarbonation, en termes de puissance, en termes de délai. Il faut construire des postes donc pour probablement exproprier certaines personnes qui se trouvent sur la ligne. Il faut passer sous des routes. C'est des choses qui sont assez compliquées et donc qui rallongent les délais de réalisation.
Car RTE voudrait commencer les travaux début 2027 pour une mise en service en 2029. Ce serait 3 ou 4 ans plus tard si la ligne devait être enterrée. On est donc toujours dans un bras de fer. Les opposants à cette ligne prévoit déjà d'attaquer le projet en justice.
Merci Célia Kilray, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Il connaît un succès grandissant chez les adolescents et s'inquiète de plus en plus les autorités et les professionnels de santé. Comment éviter les méfaits du gaz hilarant? Le protoxyde d'azote pointé du doigt dans 2 drames récents. Une jeune fille retrouvée morte chez elle à Roubaix et un jeune homme renversé à Lille par un automobiliste qui en avait consommé. D'où cette initiative menée ce matin dans un collège de la banlieue lyonnaise à Vénissieux, un atelier de prévention avec des policiers, des soignants, des éducateurs pour parler aux collégiens. Christophe Vincent.
Question pour vous, c'est quoi l'addiction?
Quand tu aimes trop une chose, tu veux pas lâcher.
Le protoxyde, ils connaissent sans en faire usage pour l'instant, d'où l'intérêt d'en parler. Julien Delot est infirmier aux consultations des jeunes consommateurs.
Le dédiaboliser fait qu'on brise les tabous et qu'on peut en parler. Si un jour, malgré toute la prévention qu'on a fait, ils sont amenés à consommer, qu'ils le fassent en prenant le moins de risques possible. Ils savent que ça peut créer des troubles neurologiques, mais ils ne savent pas que ça crée des brûlures. Ils ne savent pas qu'ils peuvent tomber. Ils ne savent pas que quand ils aspirent pas d'oxygène. Donc ils ne connaissent pas les vrais risques. Et ils ne peuvent pas, du coup, s'en protéger. Ils savent juste que c'est mal.
À Saint-Fons, la ville voisine, le maire d'hiver gauche, Christian Duchesne, a interdit la consommation de protoxyde en vin.
Quand on se promène le soir ou la nuit, on voit des voitures avec des jeunes à l'intérieur qui gonflent des ballons et qui se font des shoots. Et le matin, on trouve de plus en plus de bonbonnes de protoxyde le long des trottoirs, parfois dans les jardins, parfois dans des cours d'école. Pour information, le ramassage et le traitement de ces bonbonnes, c'est 30 000 euros par an pour la commune. Quand on est responsable d'une ville, quand on est élu, on ne peut pas rester les bras ballants devant ce phénomène.
Sans minimiser les risques du protoxyde, les soignants rappellent aux collégiens les 2 produits qui tue le plus, le tabac et l'alcool.
Reportage de Christophe Vincent à Vénissieux pour France Inter. La plateforme Shein va-t-elle être fermée pour les fêtes de Noël? La menace est sérieuse pour le site chinois de vente en ligne dans le viseur des autorités françaises après plusieurs polémiques. Le gouvernement a lancé une procédure judiciaire en urgence pour demander sa suspension en France, le temps que Shein se mette en conformité avec les règles en vigueur. Et on apprend aujourd'hui, grâce à vous, Alexis Morel, que l'État va demander la fermeture du site pour une durée de 3 mois.
Oui, 3 mois, durée minimale réclamée par le gouvernement, qui demande aussi à la justice de conditionner la réouverture de la plateforme à toute une série de contrôles qui seraient alors assurés par l'ARCOM, le régulateur du numérique. Bercy s'appuie sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle stipule que la justice peut être saisie pour, je cite, « faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne ». À l'issue de l'audience demain, le juge devrait trancher sous quelques jours. Shein risque donc bien potentiellement un blocage ou un déréférencement pendant les fêtes. De son côté, la plateforme asiatique a déjà suspendu sa marketplace en France, la partie du site où se trouvent les produits vendus par des tiers. C'est là qu'on avait retrouvé les poupées sexuelles et des armes. C'est une première victoire, réagit-on à Bercy, mais qui ne suffit pas. C'est d'ailleurs l'ensemble du site, pas seulement la marketplace, qui est concernée par la demande de suspension portée par les pouvoirs publics.
Les précisions d'Alexis Morel. On apprend par ailleurs qu'une autre plateforme eBay est visée par une enquête pour vente de produits illégaux. C'est la 5e procédure de ce genre après Shein, AliExpress, Temu et Wish, indique le parquet de Paris. 152 euros pour une personne seule, 320 euros pour un couple avec 2 enfants. Voilà le montant de la prime de Noël qui sera versée à partir du 16 décembre. La date vient d'être précisée par le ministère du Travail. Sous condition de ressources, plus de 2 200 000 familles sont concernées. Voilà de quoi commencer donc à réfléchir au budget cadeau et au menu du réveillon. Louise Buyens, on vous retrouve un mois tout pile avant Noël. Vous avez fait le tour des produits phares que l'on retrouve sur les tables pendant les fêtes et les prix ne semblent pas bouger. Hein.
Et c'est en grande partie parce que l'inflation sur les produits alimentaires se stabilise après 2 ans de forte hausse autour de 20%. Si on prend les volailles, le secteur table sur 10 à 15 euros le kilo pour un chapon, comme l'an dernier. Et c'est notamment parce que la grippe aviaire a épargné les élevages, explique le directeur de l'interprofession, Yann Nedelec.
On n'a pas répertorié d'élevage de volailles festives directement impactées. Les Français pourront consommer leur chapon de pintade, leur dinde ou canard habituel. On n'a pas d'inquiétude de ce côté-là.
Et pas d'augmentation non plus pour le saumon et la truite fumée.
Bon, c'est des bonnes nouvelles, les prix ne grimpent pas donc, mais ils restent élevés. Est-ce que les Français, Louise, vont consommer malgré tout ?
Oui, parce que traditionnellement, s'il y a un moment où on veut se faire plaisir, où on regarde un peu moins à la dépense, eh bien, c'est bien Noël, constate la directrice de l'interprofession du foie gras, Marie-Pierre P.
On observe année après année que les produits festifs restent des valeurs refuges. Les Français ont besoin de se retrouver en famille, entre amis, de se faire plaisir. Et le foie gras, c'est un incontournable des fêtes de fin d'année.
La profession espère même une hausse de 5% des ventes cette année. Un bémol pour le champagne, dont la consommation a baissé de presque 10% sur 3 ans, selon le syndicat général des vignerons de la Champagne. Les professionnels espèrent quand même voir les ventes repartir à l'occasion des fêtes. Le syndicat est positif, il dit que les expéditions de bouteilles s'accélèrent ces dernières semaines.
Merci Louise Buyen, service économie de France Inter. Et si vous avez l'occasion de faire vos courses de Noël ou les autres courses d'ailleurs dans un hypermarché Auchan, vous allez sans doute connaître un petit peu de changement puisque les 300 magasins Auchan de la métropole vont passer sous bannière Intermarché ou Netto. Le groupe l'a annoncé ce matin, le changement d'enseigne pourrait prendre effet à la fin de l'année 2026. Auchan est en difficulté financière depuis plusieurs années et a donc entamé un rapprochement avec le groupement Mousquetaire. Elles sont appelées Oxygène, comme un grand bol d'air pour les usagers des trains qui les attendent avec impatience. La SNCF prévoit de déployer de nouvelles rames en 2027 sur les lignes Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse pour remplacer les bons vieux trains Corail. Les rames seront testées l'année prochaine et elles viennent d'arriver dans les ateliers de la SNCF. Vous avez donc pu les visiter, Emmanuel Moreau.
Alors il y a un petit effet waouh en première classe, un peu moins en seconde, dont les sièges semblent un peu raides. Visite avec Manuel Canamella, le directeur du Technicentre Oxygène.
Ici on est en fait sur la partie personnes à mobilité réduite. Et il y a une vraie particularité, ça va être la seule rame en France qui va proposer des places assises en première et en seconde classe pour les personnes à mobilité réduite.
La rame est pour le moment dans son atelier, au calme, le temps de premiers essais statiques sous la responsabilité du constructeur espagnol qui a 2 ans de retard par rapport à la date de livraison prévue. Et Amandine Thomas-Comin, la directrice des lignes intercités, ne veut pas de nouveaux retards.
Le constructeur CAF, qui a la responsabilité de la fabrication et de l'obtention des essais, est très suivi pour les essais techniques qui sont nombreux, qui sont importants. Et puis, toujours l'arrivée en 2027.
Mars 2027 pour les premières, fin 2027 pour les 28 rames commandées. Il faut 1 an d'essai en ligne pour s'assurer que tout fonctionne bien. Mais pour Manuel Canamella, il y a des raisons d'être optimiste.
Nous, en tant que mainteneur, on voit que cette rame, elle est solide. Et puis, la promesse de service, on va pouvoir vraiment la sentir. Donc j'espère, et je suis sûr, quand on voit la rame, qu'on sera au rendez-vous en 2027 pour la partie service et confort.
Un confort annoncé bien plus important qu'avec les rames Corail. Réponse pour les voyageurs dans 1 an et demi.
Reportage Emmanuel Moreau, ici Pays d'Auvergne. Et ces rames Oxygène seront également déployées sur la ligne Bordeaux-Marseille. Mais ce sera un petit peu plus tard. Il faudra attendre l'année 2028, voire 2029. Des chefs amérindiens venus de la vallée du Mississippi pour rencontrer le roi Louis XV. Voilà un épisode un petit peu oublié de l'histoire de France. Ça s'est passé le 25 novembre 1725, il y a donc 300 ans jour pour jour. À l'époque, une colonie française était installée en Louisiane et des représentants locaux avaient décidé de faire le voyage jusqu'à Versailles. Et le château de Versailles, justement, a décidé de raconter cet épisode étonnant dans une exposition que l'on découvre avec vous, Sophie Bécherel.
Vêtu d'un simple pagne, coiffés de plumes, tatoués, ces Amérindiens sont accueillis avec les honneurs qui leur sont dus. Ces chefs de nation sont en effet des alliés des Français, lesquels ont colonisé la Louisiane depuis quelque temps, rappelle Everett Bendy, descendant de la nation Quapa.
La France cherche à étendre son territoire et à contrer les Espagnols à l'ouest, les Anglais à l'est, et donc ces alliés amérindiens sont très importants pour eux. Ils essaient de développer la relation avec eux. Ça a été un moment important de l'histoire.
Le programme de cette visite diplomatique mêle les audiences à la cour, la visite des Invalides, l'opéra et les parties de chasse, raconte Jonas Musco, chercheur associé au musée du Quai Branly.
Louis XV entend bien montrer un petit peu comment fonctionne la chasse à cour et il permet même aux délégués de chasser à leur manière, c'est-à-dire à pied, non pas à cheval, sans chien, avec l'aide de leurs arcs et de leurs flèches, à Fontainebleau et probablement aussi au bois de Boulogne.
Des cadeaux échangés à l'époque, il reste ce wampum, tissage de perles en parfait état qui scelle l'entente entre nations. Des calumets de la paix également, des coiffes et de magnifiques peaux de cerf ou de bison peintes, passe Núñez Reguero et commissaire de l'exposition.
Les peaux, même celles décorées, pouvaient servir de manteau pour dormir, de tapis, mais un de leurs usages aussi, c'était d'être offert dans le cadre des échanges diplomatiques. Et beaucoup des peaux qu'on a ici évoquent cette question de la diplomatie avec un décor qui présente notamment le calumet de paix.
Les Amérindiens se verront offrir en retour des médailles à l'effigie de Louis XV avec un fusil et une montre.
Et c'est une exposition à découvrir donc au château de Versailles jusqu'au 3 mai prochain. Il vient de décoller, mais il devrait bientôt être remplacé. Le couple de pandas géants du zoo de Beauval sont actuellement dans l'avion en direction de la Chine, rapatriement pour raison de santé. Rassurez-vous, amis français, de nouveaux pandas géants arriveront dans le futur, assure l'ambassade de Chine à Paris. Et puis la défaite ne serait pas synonyme d'élimination, mais quand même, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour les Marseillais et pour leur aventure européenne. L'OM accueille ce soir au stade Vélodrome l'équipe de Newcastle en Ligue des Champions et la tâche ne sera pas facile face aux Britanniques, même si cette affiche, Nicolas Perronnet, réveille des souvenirs impérissables chez les supporters marseillais.
Dans les entrailles du stade, l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi est en pleine conférence de presse. Derrière lui, que du bonheur, le titre barre la une du journal La Provence, daté de plus de 20 ans. Ce jour-là, le 6 mai 2004, Didier Drogba envoie l'OM en finale de la Coupe de l'UEFA, un doublé face à Newcastle dans un vélodrome en folie qui s'en souvient encore.
Pour moi, c'était une des plus grosses ambiances qu'il y a eu au stade.
Ce soir, Fred sera à nouveau dans son virage sud, pas le même enjeu, mais la même nécessité de gagner.
La victoire, si on veut espérer quelque chose, est impérative. Newcastle, c'est le match bascule.
Pour continuer à espérer, ou beaucoup moins, Hugo, lui aussi abonné de longue date, a fait les comptes.
Si on considère qu'il faut au moins 9 points, voire 10 pour se qualifier, tant qu'il reste 3 matchs, l'espoir est possible. Mais là, c'est sûr qu'au vu de la physionomie des matchs, Newcastle, c'est un match qu'il faudra déjà certainement pas perdre. C'est un match crucial.
Celui-ci n'offrira aucune finale, comme il y a 21 ans, mais l'OM devra l'aborder comme si c'en était une, face à un club devenu deux décennies plus tard, l'un des plus riches du monde.
Et c'est un match à suivre à partir de 21h. Merci Nicolas Perronnet, direction des sports de Radio France. 13h27 sur France Inter. Restez avec nous. Dans un instant, on va retrouver les prévisions météo Stéphanie Fromentin. Et puis on va accueillir nos invités pour évoquer la place des proches dans les cas de violence conjugale. Des proches qui se sentent souvent démunis, mis à l'écart, alors que leur rôle pourrait être crucial. Sylvaine Grévin, qui a créé une association après la mort de sa sœur, et l'avocate Michel Daillon sont avec nous. Et j'attends vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Notre feuilleton à suivre également toujours dans la plus grande fabrique de clarinettes, ça se passe dans les Yvelines. Ajra Mohamed nous emmène aujourd'hui dans l'atelier finissage, c'est là où l'on assemble les instruments de musique. 13h50, c'est la France. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Céline.
Du quotidien Ouest France, où allez-vous nous emmener aujourd'hui?
Eh bien Céline, de Quimper dans le Finistère à Toul en Meurthe-et-Moselle, en passant par Montrichard dans le Loir-et-Cher, je vous parle de l'essor des vélos cargo. Ces vélos géants qui accélèrent dans nos communes.
Et puis Music & Co avec Stéphane Escher tout au long de la semaine dans le 13-14. Le chanteur suisse partage ses coups de cœur et les revisite à sa façon. Et c'est Bob Dylan aujourd'hui qu'il choisit.
Quand Bob Dylan chante, c'est très profond, c'est très ancien et quand même moderne. Il y a comme une blessure qu'on écoute.
Voilà, et ce sera à écouter tous ensemble juste avant 14h. À tout de suite.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous envisagez d'acheter un peigne pour chauve, un casque pour poulet ou un aspirateur à points noirs? Va falloir faire vite car Chine pourrait être bloquée en France dès demain. Ce mardi, zoom sur les coulisses de la sulfureuse enseigne de fast fashion.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr.
Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
On a beau dire, Omiris, question alarme et télésurveillance, chapeau.
Et à ce prix-là, matériel, maintenance, agent de sécurité et appel aux forces de l'ordre, tout est compris.
Mais alors, tout le monde va s'équiper?
Ça, avec Omiris, on n'a pas fini de courir.
Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo tout de suite.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Céline.
Et la journée s'annonce encore perturbée. Hein.
Oui, le temps reste un peu couvert avec des précipitations qui faiblissent tout de même peu à peu au fil de la journée. Il neige sur les reliefs et le massif central à partir de 600-800 mètres. On attend 5 à 10, 15 cm en général, jusqu'à localement 30 cm sur le nord des Alpes. Attention aux avalanches et aux coulées de neige près des sommets du massif central. À l'ouest, le temps est plus variable. Il laisse place à un soleil plus franc cet après-midi. Toutefois, sur le Pays Basque et les Pyrénées, les averses nombreuses prenant part parfois un caractère orageux près du littoral, perdure en journée, se transforme en neige des 1000 mètres. Le pourtour méditerranéen conserve un temps bien ensoleillé, soutenu par le Mistral et la Tramontagne qui souffle entre 60 et 80 km par heure, sauf à l'ouest de la Corse où les averses se transforment en neige des 1300 mètres et le vent souffle de 50 km par heure du sud à 80 km par heure au nord de l'île.
Et hier, Stéphanie, vous promettiez que le redout n'allait pas durer. Ça y est, déjà, l'atmosphère se rafraîchit.
Déjà, et ça va être encore pire demain. L'arrivée du flux de nord vient nous rappeler qu'on entre dans l'hiver. Si la journée affiche des valeurs positives, elles ne sont pas très hautes. Ne comptez pas sur plus de 4 à 8 degrés à l'est, 7 à 12 à l'ouest. Il fait 1 degré à Laguiole, 4 à Aurillac, 9 à Paris, 12 degrés à Vannes.
Merci pour toutes ces prévisions. Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14, Céline Asselot.
Il y a la question des moyens, les outils judiciaires, le travail de prévention. Tout cela, bien sûr, est essentiel pour tenter d'empêcher les féminicides. Mais au cœur de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a aussi la question de l'accompagnement, accompagnement des victimes, accompagnement des proches de victimes qui se sentent souvent démunis, voire mis à l'écart. Deux invités avec nous pour en parler dans ce 13-14. Maître Michel Dayan, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes avocate au barreau de Paris, présidente de l'association Lawyers for Women et autrice d'un ouvrage qui s'appelle « Nous nous sommes tant aimés », paru aux éditions de l'Observatoire. Sylvaine Grévin est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous présidez une association qui s'appelle la Fédération Nationale des Victimes de Féminicide, que vous avez fondée après la mort, en 2017, de votre sœur Bénédicte. Peut-être racontez-nous comment est née cette association, justement, Sylvaine Grévin. Est-ce qu'elle est née d'un sentiment de manque ?
Oui, tout à fait. À l'époque, donc ma sœur est décédée en 2017. À l'époque, c'était véritablement le vide institutionnel concernant l'accompagnement des familles et des proches de familles, en tout cas impactées par ce drame. Et cela, si vous voulez, m'avait particulièrement choquée et impactée, ainsi que ma propre famille, bien évidemment. Et donc, deux ans après, effectivement, le décès de ma sœur Bénédicte, j'ai rencontré d'autres familles impactées par donc cette tragédie et on s'est rendu compte que quelle que soit la région, la juridiction concernée, nous avions les mêmes problématiques. Et l'association est donc née en Bretagne en 2020, près de Rennes. Voilà.
Vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été entendu, écouté par vos interlocuteurs judiciaires notamment pendant l'enquête ?
Oui, tout à fait. Alors, dès le départ, hein, de toute façon, puisque comme on n'a pas eu déjà d'annonce de décès dans les formes, moi, j'ai appris malheureusement le décès par ma propre mère, puisque, en tout cas, l'ex-compagnon de ma sœur, qui n'avait pas appelé les secours, qui n'avait pas d'ailleurs non plus appelé les forces de l'ordre, avait trouvé le moyen d'appeler ma mère pour lui donner moult détails sur le corps meurtri de Bénédicte. Donc, nous sommes arrivés avec mon frère sur les lieux de cette manière-là, avec, vous savez, quand vous arrivez comme cela, comment vous avez les secours, vous avez les gyrophares des ambulances, en tout cas du SAMU, force de l'ordre. Et là, vous êtes complètement sidéré, parce que c'est ça la réalité. C'est que moi, j'avais de surcroît en plus l'idée, puisque je ne voulais pas croire en son décès, bien évidemment, et j'avais encore l'idée que peut-être elle était encore vivante. Et effectivement, l'annonce du décès, si vous voulez, lorsque nous sommes dirigés, nous, vers les forces de l'ordre, nous a littéralement rembarrés. mais vraiment rembarré. Et c'est un homme d'une extrême bienveillance qui, voyant cela, est venu à nous. Il s'agissait du médecin urgentiste, d'ailleurs, qui avait émis l'obstacle médico-légal et que je n'oublierai jamais. Donc voilà les circonstances, si vous voulez. Et ensuite, vous avez, comme pour la plupart des familles, eh bien, un parcours judiciaire qui s'annonce et dont vous ne maîtrisez absolument pas le mode de fonctionnement, parce que tant que vous n'êtes pas confronté à ce genre, à la justice d'une manière générale, déjà vous ne savez pas où trouver un avocat pénaliste, par exemple.
Oui, effectivement, c'est des choses auxquelles on est confronté pour la première fois, sans doute, dans ces moments-là. Un mot justement de ce parcours judiciaire que vous évoquiez, Sylvaine Grévin, il n'est pas terminé aujourd'hui, concernant votre
sujet. Non, tout à fait, il n'est pas terminé parce que nous avons, par malheur, finalement, si vous voulez, nous avons comment jouer, je ne sais pas si c'est de la malchance, je pense qu'il s'agit surtout d'incompétence de différentes institutions chargées déjà de protéger ma propre sœur, puisque je dois quand même rappeler que 10 jours avant le décès de Bénédicte, les forces de l'ordre avaient été à nouveau alertées, puisque ma sœur était une victime connue et avérée de violence conjugale, puisque son ex-compagnon avait été condamné pour les mêmes faits, pour violence aggravée avec 2 ans de mise à l'épreuve. Et donc, de ce fait, malheureusement, avec ce décès, nous avons pensé en tant que famille que tout allait s'enchaîner très vite. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous avons eu affaire, malheureusement, à des forces de l'ordre qui, contre toute attente, ont orienté le décès dans un premier temps vers une thèse accidentelle. En gros, elle s'était fait ça toute seule. Je précise, c'est important quand même de le dire, le corps de ma sœur présentait plus de 50 hématomes sur l'ensemble du corps, tête, face, ventre, dos, jambes, visage. Elle est morte d'un hématome soudural au cerveau. Elle présentait une dizaine de fractures de côtes. Elle avait le visage mutilé, les parties intimes mutilées. Et on nous a dit que c'était une chute accidentelle. Voilà. Et tout est parti de là, voilà.
Oui, bien sûr. On comprend l'émotion qui est la vôtre et la colère sans doute aussi de cette réponse qui n'est pas celle que vous auriez pu attendre. Justement, je me tourne vers vous, Maître Michel Daillon. L'histoire de Sylvaine, l'histoire de Bénédicte, est-ce qu'elle est malheureusement représentative d'une réalité plus vaste ?
Alors, l'histoire de Bénédicte et de Sylvaine, puisque c'est sa sœur, et que ce sont toutes nos sœurs, toutes les femmes victimes de violences, ce sont nos sœurs, elle est représentative de l'année... De la période 2017. Il faut quand même dire que les choses ont évolué depuis lors. Je ne suis absolument pas étonnée d'entendre, Sylvaine, votre témoignage glaçant. Vous avez dit des mots tels que la sidération, tels que l'incompétence. Ce sont des choses que l'on retrouve de parcours du combattant, de la combattante, quand on porte plainte ou quand, hélas, ce sont les victimes qui se constituent, enfin, les familles des victimes qui se constituent partie civile après un décès. Depuis 2017, les choses ont évolué.
D'accord.
Il faut le dire. Il y a eu le Grenelle sur les violences conjugales qui ont considérablement amélioré et le dispositif législatif et surtout son application et la prise en charge des paroles des femmes victimes de violences à l'intérieur du foyer. Peut-être pas assez, mais on va y venir, des proches des victimes de violences.
Mais justement, on sait que l'appareil judiciaire est débordé, que les policiers, les gendarmes qui reçoivent les plaintes ont beaucoup, beaucoup de sollicitations. Est-ce qu'on prend en compte vraiment, est-ce qu'on a le temps, les moyens de prendre en compte la douleur, les questions des sœurs, des parents, des enfants aussi, parce que souvent il y en a des enfants.
Mais c'est tout le problème. Le dispositif en France, il est quasiment parfait. Sur le papier, on est des super bons élèves. Le sujet, c'est son application. C'est l'application de la loi. Vous avez parlé de moyens. On a un stock de plaintes qui est environ 2 millions en France, je crois. Et dans ce stock de plaintes, il y a des plaintes pour violences conjugales, des Bénédictes, hélas, il y en a encore de nombreuses. Des femmes qui, dans mon cabinet, poussent la porte de mon cabinet alors qu'elles ont poussé la porte d'un commissariat 6 mois. 8 mois, 1 an parfois auparavant, pour dénoncer des faits de violence conjugale. On les entend, on les écoute. La réponse, en tout cas, de leur parole, la prise en compte, pardon, de leur parole, elle s'est améliorée considérablement, mais en revanche, on n'appuie pas sur le bouton on, et il n'y a pas une convocation systématique pour une audition, pour une garde à vue, et les procureurs, parce que ce sont quand même les procureurs qui mènent l'enquête, hein, faut pas l'oublier, c'est pas les policiers qui mènent l'enquête, c'est les procureurs qui mènent l'enquête, et les policiers, c'est sous la direction du procureur, ne font pas le job. Donc il y a vraiment un sujet de moyens. Et puis il y a un sujet aussi, hein, le mot a été dit, de compétences. Il y a un sujet de personne, il y a un sujet de volonté, de chacun, à chaque niveau. Vous voyez, la lutte contre les violences faites aux femmes, dont l'achèvement le plus funeste, le plus monstrueux, c'est le féminicide, c'est une chaîne. Et si un maillon est défaillant, alors la chaîne se casse. Et le dispositif est totalement annihilé.
On va aller au standard de France Inter, où nous attend Marie. Bonjour Marie, bienvenue.
Bonjour.
Je crois que vous vouliez... non pas poser une question, mais peut-être témoigner aussi d'une situation que vous connaissez bien.
J'ai été enfant dans une famille où il y avait des violences conjugales et je me posais la question de... Je ne comprends pas, avec l'âge que j'ai maintenant, pourquoi les amis qui entouraient ma mère ne l'ont pas amené à porter plainte. Bon, c'était les années 80, peut-être que le regard était différent, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et du coup, je me disais aujourd'hui qu'est-ce qui peut faire que ce soit différent. Et je me disais aussi peut-être une association qui aide les femmes en direct, de femmes solidaires, je ne sais pas, pour pouvoir les accueillir le soir même. Ou, enfin voilà, je pense à des choses comme ça. Mais voilà, je ne comprends pas trop qu'il n'y ait pas eu de réaction. Oui. Et même aujourd'hui, il n'y en a pas.
Merci d'avoir partagé votre incompréhension et vos questions avec nous, Marie. Je me tourne peut-être vers vous, Sylvaine Grévin, justement. Est-ce que c'est pour ça, c'est pour répondre à ce type de cas que vous avez fondé l'association, la Fédération Nationale des Victimes de Féminicide ?
Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, hein, mais notre fédération, depuis 5 ans, se substitue au rôle de l'État, il faut le dire. Aujourd'hui, si nous n'existions pas, en fait, comment les familles seraient totalement isolées. Nous avons contribué, par exemple, à un meilleur accompagnement, alors même en travaillant d'ailleurs avec des groupes de travail auprès du ministère de la Justice notamment, mais différents autres ministères, notamment pour élargir le protocole féminicide, qui est un protocole qui est mis en place depuis 2016 à l'unité spécialisée en psychotraumatisme d'Aulnay-sous-Bois. Pour autant, ce protocole n'est pas généralisé, va essentiellement prendre en charge finalement les enfants mineurs de la victime et pour autant, les frères, les frères, les sœurs, les adultes, les pères, les mères, eux sont laissés de côté. Donc c'est pour ça, nous aujourd'hui, c'est un chiffre très important, nous accompagnons 40% des familles impactées par un féminicide. Donc cet accompagnement, c'est un chiffre important. Cet accompagnement, l'idée, si vous voulez, nous sommes... des créateurs de liens. Nous ne sommes pas des professionnels, pour autant nous nous entourons de professionnels et l'idée c'est justement d'orienter les familles impactées par un féminicide vers notamment, eh bien tout bêtement, un avocat pénaliste parce que, encore une fois, tant qu'on n'est pas confronté à la justice, on n'a pas forcément dans son agenda le contact d'un avocat pénaliste et encore plus peut-être spécialisé sur ces questions, vers également toute la partie psychologique. Et Dieu sait que c'est important. Et nous entourons de partenaires, que ce soit d'ailleurs des avocats, que ce soit des psychologues qui nous donnent de leur temps pour, dans un premier temps, avoir un accompagnement immédiat pour ensuite orienter vers notamment, par exemple, des associations comme...
Suivre tout le parcours, oui.
Exactement. Et nous sommes là, donc, en conseil quasi journalier.
C'est Laurence que je voudrais accueillir maintenant dans notre discussion. Bonjour, Laurence.
Oui, bonjour.
Et bienvenue. Je vous laisse poser votre question.
Ben moi, en fait, je voulais partager mon témoignage. Donc, j'ai subi des violences conjugales, pas que moi, mes enfants aussi. Et en fait, j'avais pas d'expérience, évidemment, en la matière. Je savais pas trop quoi faire. J'étais en procédure de divorce et mon ex-mari pouvait revenir dans le foyer conjugal à tout moment. Donc j'ai demandé à mon avocate si je pouvais changer les serrures du foyer conjugal et ça m'a été interdit. Donc pour me protéger, moi et mes enfants, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me mettre hors la loi. Et ça, je trouve ça complètement illogique, anormal. Et donc j'étais seule face à moi-même à prendre cette décision sans conseil, etc. Et toute la procédure de divorce a été comme ça, en fait, où j'étais seule jusqu'au moment où, en fait, on me demande dans la procédure de communiquer ma nouvelle adresse. Et je n'ai pas le choix.
Ouais. Donc, ce qui paraît contre-intuitif, effectivement, partager cette information.
Alors que ma fille a fait le témoignage auprès de la juge de tout ce qui se passait à la maison, à la maison, donc c'est bien écrit noir sur blanc. Et la seule association qui m'a soutenue, c'est le CIDFF, CIDFF, qui vraiment m'a porté, m'a assisté et a fait en sorte que je ne sois pas tenue de partager mon adresse parce qu'en fait, contrairement à ce que la notaire, contrairement à ce que l'avocate m'a dit, vous n'êtes pas obligé, si votre avocate vous aide, elle peut donner l'adresse du cabinet pour vous aider. Enfin, il y a d'autres solutions et le CD.
Et justement, on va faire réagir notre invité là-dessus. Merci mille fois, Laurence, pour le courage de ce témoignage. Vous voyez réagir.
On parlait d'incompétence. Il faut balayer devant sa porte. Il y a des avocats incompétents. Il y a des avocats qui ne savent pas. Le témoignage de Laurence, il me révolte, il m'exaspère contre mon propre corps de métier, parce qu'il y a un outil fabuleux qui s'appelle l'ordonnance de protection. En 6 jours, vous obtenez une expulsion. Évidemment, le changement des serrures, même avant l'ordonnance de protection, on peut le conseiller dès lors que l'on a déjà porté plainte. Donc, il y a des outils qui existent et il faut évidemment s'adresser à la bonne porte. Et les associations peuvent aider pour diriger sur des avocats qui sont compétents en la matière et qui connaissent la loi, son application, parce que la loi, elle protège toujours contre la loi du plus fort et du plus violent, la loi. C'est important de le rappeler. Et comme on parlait des familles des victimes, je voudrais juste ajouter une chose. Elles sont importantes en amont et hélas après, pour les après les féminicides. En amont, parce que l'entourage, ce sont les premiers à qui on se confie, si l'on se confie. J'aimerais dire à l'entourage de femmes dont on suppute, dont on se demande si elles ne sont pas victimes de violences conjugales, parce que la honte, elle précède toujours le silence. Il y a la honte et il y a le silence. Il faut poser des questions. L'entourage, les amis, les sœurs, les cousins, l'entourage professionnel, il faut ingérer. On a un devoir d'ingérence en matière de violences conjugales. Et puis après, évidemment, l'accompagnement. Dans certains pays, notamment en Italie, en Espagne, il y a des lois cadres et il y a des dispositifs pour les familles des victimes de féminicides.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas seul, contrairement au sentiment que certaines auditrices ont partagé avec nous, et on les remercie encore de ces témoignages. Merci à toutes les deux, Maître Michel Dayan, Sylvaine Grévin, je rappelle le nom de votre association, la Fédération Nationale des Victimes de Féminicide, association fondée après la mort de votre sœur Bénédicte. Je vous remercie toutes les deux d'avoir discuté ensemble au cours de cette émission dans le 13-14 de France Inter. Tout de suite, le feuilleton. Une semaine dans leur vie, en musique jusqu'à vendredi, puisque nous passons la semaine au sein de l'entreprise Buffet Crampon, le leader mondial de la fabrication de clarinettes, entreprise installée à Magnanville dans les Yvelines. 200 personnes y travaillent, et Cyril Chevalier à l'atelier finissage, notamment là où on assemble la clarinette. Écoutez.
Alors, bon, je vais poser celle-ci par contre.
Moi, je viens mettre les clés sur l'instrument qui arrive nu à la base, et ensuite on vient faire tout ce qui est réglage.
Les clés, c'est là où le musicien va appuyer avec ses doigts, c'est voilà. Les boutons qu'on voit sur la clarinette.
Exactement, tout ce qui est argenté. En gros, ça fait comme un squelette externe, quoi. C'est vraiment... Ça fait exosquelette, tout simplement. Et chaque clé fera une note aussi. Bonjour, moi je m'appelle Cyril Chevalier. Je suis finisseur mi bémol, ut, ré, chez Buffet Crampon depuis maintenant 4 ans. Donc là, je suis sur une clarinette en ut. C'est la tonalité de l'instrument qui sortira en ut, qui est une note. Il y a une clarinette en si bémol, en la, en ut, en ré, en mi. On peut en faire beaucoup. Donc là, ce que je suis en train de faire, je prends une clé, ce qu'on appelle un bras. Un bras, c'est une clé qui va venir faire fonctionner une autre clé un peu plus loin. Voilà, je prends une fraise, je mets dans le tour,
et je viens fraiser la clé pour la mettre exactement la longueur que je veux pour le fraisage des boules. Hop. Et là, par exemple, voilà, elle passe. Un petit peu d'huile, toujours de l'huile, parce qu'au bout d'un moment, c'est comme pour nous, on rouille, voilà. Et là, ma clé fonctionne très bien. Voilà, en gros, ça va être ça sur chaque clé. Il y a des instruments, on peut mettre entre, on va dire, 5 et 6 heures par demi-corps, comme les clarinettes basses. Avant, j'étais dans beaucoup d'ateliers de l'entreprise. Après, j'ai fait d'autres métiers. Avant, j'étais dans le commerce, adjoint directeur dans un magasin. Et j'ai suivi aussi des études de graphisme. Rien à voir du tout avec, avec le métier. Et puis, j'ai découvert un métier passion, on va dire, par hasard. Après, le côté musique, les instruments, j'adore tout ça depuis tout petit. Je joue d'un instrument aussi.
Mais de la clarinette ?
Eh bah, pas du tout. Eh bah, non. Eh non, parce que sur la plage, c'est plus rigolo d'avoir une guitare. Désolé. J'ai quand même appris un petit peu à jouer de la clarinette. Je sais souffler dedans. J'ai juste une seule musique dans mon répertoire et je trouve ça très cool. Et puis, j'essaye au maximum d'aller voir des concerts quand c'est possible, ou même à la télé. Ça arrive très très souvent, et que par fierté, quand on est en famille, on fait « Attendez, arrêtez tout, mettez pause, je veux absolument voir si c'est un instrument que j'aurais pu faire à un moment donné. » Et très souvent, quand on voit des clarinettes, on voit écrit « Buffet Crampon » dessus. C'est un peu une fierté quand même. C'est de la finesse. C'est de la c'est tout le temps à la recherche du fonctionnement parfait de la moindre clé posée sur l'instrument. Puis tout simplement, c'est par exemple le musicien quand il vient tester l'instrument, clairement quand il vient nous voir en disant bah c'est parfait, celle-ci on peut la vendre, c'est toujours gratifiant de savoir que on est là, on est encore là, on sera toujours là. Et puis oui, c'est les 200 ans qu'on fête cette année. Et nos instruments sont toujours de très haute qualité. Et puis espérons que ça durera encore pour les 300 ans.
Dans la fabrique des clarinettes, c'est le feuilleton signé cette semaine. Ajram Mohammad, la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France et le mardi, c'est avec vous, Cyril Petit du quotidien Ouest France, pour ces petites histoires qui en disent long. Aujourd'hui, petites histoires de vélo-cargo.
Et je vous emmène, Céline, à Quimper, dans le Finistère, où les vélo-cargo ont de plus en plus d'adeptes, constate Ouest France, notamment chez les familles. Alors, pour celles et ceux qui n'en ont jamais vu, rappelons qu'un vélo-cargo est une maxi-bicyclette conçue pour transporter plusieurs personnes, jusqu'à 2 enfants derrière le cycliste, mais aussi des charges volumineuses ou lourdes, jusqu'à 100 kg, ces engins électriques ou mécaniques peuvent mesurer 2,50 m sur 70 cm de large, mais leur maniement s'apprend plutôt facilement, nous dit-on.
Et il y en a de différents modèles.
Quatre principaux, Céline. Il y a le Long Tail, un vélo avec un porte-bagages grand format à l'arrière pour les passagers. Il y a le Biporteur. Lui, c'est à l'avant qu'il a une plateforme ou une caisse pour transporter enfants ou marchandises. Il y a aussi le Triporteur. Il dispose de deux roues à l'avant et une à l'arrière et il est très stable avec une large caisse frontale. Enfin, on croise des vélos cargo dits box. C'est une version avec une boîte fermée à l'avant ou à l'arrière et ils sont très utilisés par des livreurs.
Et on les croise, ces véhicules, Cyril, de plus en plus souvent.
Oui, environ 34 000 vélos cargo ont été achetés en 2024. C'est moins de 2% des ventes totales de vélos qui sont globalement en baisse, mais c'est 11 fois plus en 5 ans. Et l'an passé, 60% des acheteurs étaient des familles urbaines ou périurbaines. Beaucoup y voient un côté plus pratique, plus écologique et une façon de remplacer une éventuelle deuxième voiture. Mais cette transition, Céline, a un prix entre 3 000 et 8 000 euros pour un vélo cargo à assistance électrique.
Alors, vélo cargo a souvent rimé avec bobo. Est-ce que ça, Cyril, ça a changé ?
Eh bien, un peu par des initiatives locales. À Strasbourg, l'association Escargo en propose en libre partage avec une adhésion de 15 à 45 euros par an. Sur les 17 véhicules en location, 4 sont dans des quartiers prioritaires et ça va augmenter. Un membre de Escargo témoigne sur France 3. Ceux qui se disent « c'est un truc de bobo » vont peut-être changer d'avis en voyant que quelqu'un de leur immeuble ou de leur rue roule avec. Alors, à Besançon, dans le Doubs, l'atelier artisanal Cosmo Cargo fabrique, lui, des vélos cargo à base de matériaux de emploi, ce qui fait évidemment baisser les tarifs. Et puis, des villes mettent en place initiation ou accompagnement financier. Par exemple, la mairie de Paris inclut les vélos cargo dans ses dispositifs d'aide à l'achat de bicyclettes pour les personnes aux revenus modestes.
Et puis, en plus des familles, les professionnels, les collectivités s'y mettent aussi.
Oui, à Toul, en Meurthe-et-Moselle, des infirmières adoptent le vélo cargo électrique pour leur consultation, écrit l'Est républicain, ce qui permet de circuler avec le matériel sans tourner des heures pour se garer. D'ailleurs, des communes comme Nogent-sur-Marne, Nantes ou Lyon ont réservé des aires de stationnement ou de livraison pour ces vélos géants. Et puis, à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, la commune vient, elle, d'équiper ses agents en vélo cargo, tandis que l'agglomération Paris-Saclay en a acheté 27 pour favoriser les distributions de colis du dernier kilomètre. Alors Céline, aujourd'hui, 12% des livraisons effectuées par Géodis à Grenoble le sont ainsi, indique l'entreprise au journal Les Échos. La Poste, elle, m'indique utiliser déjà plus de 1000 vélos cargo dans les centres-villes. Alors, à l'approche de Noël, on va voir de plus en plus ces véhicules que certains appellent prématurément, certes, nouvelles petites voitures des villes.
Merci Cyril Petit, du quotidien Ouest France et de C'est la France, c'est une chanson avec Stéphane Escher. Toute la semaine d'ailleurs, depuis lundi, le chanteur suisse revisite avec nous les chansons qui ont compté tout au long de sa vie et de sa carrière. Écoutez.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Escher. Oui, je reviens et j'ai le plaisir de passer un petit moment avec vous où je vous parle de mes débuts d'une passion. La mienne a commencé avec le folk. Avant que j'étais punk rocker, où j'ai fait de la musique électronique, il y a mon grand frère qui a dit « Il faut que tu écoutes Bob Dylan ». Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. Et je sais pas, je crois que je suis pas le seul être humain dans cet univers où, au-delà, quand Bob Dylan chante, on n'est pas séduit par l'esthétique, c'est pas du Bach, on n'est pas séduit par l'exubérance, Jeanne Masse qui chante en rouge et noir. Non, c'est autre chose, c'est très profond, c'est très ancien et quand même moderne. Il y a comme une blessure qu'on écoute et c'est bien que cette blessure, elle est là. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. Très tôt, j'ai appris une chanson de Bob Dylan qui s'appelle « Don't think twice, it's alright ». Comment je le traduirais ? Ne te prends pas la tête, c'est bien comme c'est. Et c'est un peu une philosophie que j'ai aussi. J'ai un certain âge, dans des interviews, on me demande « Vous avez regretté quelque chose ? Est-ce que vous avez encore un rêve ?» Toutes ces conneries-là, et non, je n'ai pas le temps de regretter. J'ai la chance, comme vous qui écoutez ici à la radio, de vivre dans le présent. Voilà. Don't think twice, it's alright. Avec un ami, Roman Novka, à la baryton guitare. On se retrouve demain avec une autre histoire. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe. That light I never known. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's alright. And it ain't no use in calling out my name like you never did before. And it ain't no use in calling
the one way, away down the road. I once loved a woman, a child I'm too. I give her my heart, but she won my soul. But don't think twice, it's alright. Mais n'y pense pas trop, tout va bien.
Tout va bien. Bob Dylan revisité par Stéphane Escher, que l'on retrouvera demain dans le 13-14 au fil de l'histoire à suivre.